Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a, devant les conseils des droits de l'homme de l'ONU, présenté les conclusions accablantes de la mission déployée en République démocratique du Congo, pointant du doigt toutes les parties impliquées dans la récente escalade des violences dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans les territoires de Lubero, au nord Kivu, au moins 70 civils ont été tués, une vingtaine d'autres sont portés disparus et plusieurs habitations ainsi que des véhicules incendiés. C'était la nuit de lundi à mardi. L'attaque d'Entoyo par les ADF a eu lieu vers 22h locales. Les assaillants ont tué des civils à l'arme blanche par balle alors qu'ils participaient à une veillée mortière. L'invité de ce journal, c'est le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui vient de clôturer une caravane humanitaire dans la région des Beni, Lubero et Walikale au Nord Kivu. Selon Rubens Mikindo, la situation sécuritaire et humanitaire dans la province reste précaire et que les processus de Washington et de Doha représentent une voie prometteuse pour le rétablissement de la paix dans la région. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Ce journal part de Genève où le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a tiré la sonnette d'alarme ce mardi 9 septembre. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a présenté des conclusions accablantes de la mission déployée en République démocratique du Congo, pointant du doigt toutes les parties impliquées dans la récente escalade des violences dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Volker Türk affirme que toutes les forces engagées dans les conflits, le M23 soutenu par les forces de défense du Rwanda, les FARDC et les groupes armés alliés ont commis des graves violations du droit international, humanitaire et des droits humains. Il évoque des crimes de guerre et dans le cas du M23, des crimes contre l'humanité. On écoute Volker Türk.
Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans, pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions.
Dans le même cadre, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a exprimé ce mardi 9 septembre à Genève sa vive inquiétude face aux exécutions sommaires et aux violations graves des droits humains dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta a dénoncé les exactions du M23-RDF dans les territoires de Rutshuru, malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu. Elle évoque une situation sécuritaire et humanitaire alarmante, marquée par la mort des 152 civils en juillet et août, en plus de 8 millions de déplacés privés d'aide. Les affrontements se poursuivent malgré la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Elle pointe aussi les abus dans les zones sous contrôle du M23 AFC, détentions arbitraires, persécutions des journalistes et activistes. On écoute Bintou Keïta.
La situation des victimes de violences sexuelles, particulièrement celle des femmes et des filles, me préoccupe profondément car le nombre de cas augmente tandis que l'assistance ne fait que diminuer. La situation humanitaire n'est guère meilleure. Plus de 8 millions de personnes déplacées prennent à recevoir l'assistance humanitaire à cause de l'insécurité et du manque de ressources. Elle en déplore la perte d'au moins 13 travailleurs humanitaires depuis janvier 2025. Monsieur le Président, les abus des droits humains, avec notamment une multiplication des cas de détention arbitraire dans les zones sous contrôle du M23-AFC, restent préoccupantes. Les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes font l'objet de persécutions inédites. Dans les zones sous contrôle de l'AFC M23, la MONUSCO continue d'abriter des civils dans ses bases à Goma et a appuyé la protection de centaines de défenseurs de droits de l'homme, des activistes de la société civile et des journalistes.
Pour sa part, le ministre d'État à la Justice a affirmé que le rapport du haut-commissaire prouve que le conflit qui se déroule à l'est de la RDC est un conflit international et non interne. Cela avec la présence confirmée des troupes rwandaises. Quant au ministre des Droits humains, il a relevé que des crimes massifs et systématiques sont commis par le M23 soutenu par le Rwanda. Pour répondre aux accusations formulées contre les FARDC et les Wazalendo, le ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il n'existe aucun lien de commandement ni d'alliance politique entre les FARDC et les FDLR. Cependant, tous les militaires FARDC, auteurs des crimes, seront traduits en justice. On écoute Patrick Muyaya Katemboué.
Nous réaffirmons notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires contre tout élément de FARDC qui se compromettrait par des actes contraires aux valeurs républicaines, y compris par de poursuites judiciaires. Le gouvernement juge donc de ces faits inapproprié toute tentative de présenter une fausse symétrie entre d'une part une armée nationale redevable de ses actes et défendant la souveraineté du pays et d'autre part un groupe armé subversif, supplétif d'un État voisin dont la stratégie repose essentiellement sur la terreur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de la guerre. S'agissant de Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face aux massacre. C'est la résurgence du M23 qui a tout perturbé du processus de Nairobi, vous vous souvenez, conduit par le président Uhuru Kenyatta et qui avait obtenu de tout ce groupe l'engagement à être démobilisé. Que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver des réponses tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo.
Mais le Rwanda rejette les allégations selon lesquelles il soutient les M23. Sa représentante a souligné que toutes ces allégations soient préalablement vérifiées, car, dit-elle, il ne faut pas se fier à des sources qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve. On l'écoute.
Le M23 apparaît 110 fois dans le rapport. Les FDR et les FRDC, donc 65, 22, les FDLR, seuls 15, et des groupes armés génériques, donc 23, donc dans ce rapport. Et il y a un déséquilibre qui, évidemment, biaise non seulement les discours, mais aussi la réalité sur le terrain. 53 groupes armés opérativement dans la RDC orientale et aux côtés des FRDC, y compris donc des mercenaires, des contractuels privés et d'autres factions. Cela, bien sûr, ne fait qu'alimenter des assertions et des discours non étayés. Le Rwanda aspire à la paix et à la stabilité et nous n'accepterons plus de faire l'objet d'accusations sans fondement. Comme je le disais, on ne peut pas négocier des éléments de preuve matérielle comme ça. On ne peut pas alléguer n'importe quoi.
C'est un dossier signé Alain Irung, l'envoyé spécial de Radio Kapi à Genève. Dans les territoires de Lubero au nord Kivu, au moins 70 civils ont été tués, une vingtaine d'autres sont portés disparus et plusieurs habitations ainsi que des véhicules incendiés. C'était la nuit de lundi à mardi lors d'une nouvelle attaque des ADF dans la localité de Ntoyo située à 7 km de Mangorojipa, chef-lieu du secteur des Bapéré. La société civile qui parle d'un bilan encore provisoire redoute qu'il s'alourdisse alors que de nombreux habitants restent introuvables. Marc Marofimbo pour les détails.
L'attaque de Toyo par les ADF a eu lieu vers 22h, heure locale. Les assaillants ont tué des civils à l'arme blanche et par balle alors qu'ils participaient à une veillée mortière. Les chefs du secteur de Bapere, Maker Sovikunula, fait état d'un bilan provisoire de 71 morts, 8 blessés, 14 maisons ainsi que plusieurs véhicules et motos incendiés. Il évoque également une vingtaine de disparus. L'arrivée rapide des forces conjointes FRDC-UPDF basées à Mangurejipa a permis de limiter l'ampleur des dégâts. Mais la société civile déplore que les alertes adressées aux services de sécurité sur la présence des rebelles n'aient pas été prises en compte. Après leur forfait, les assaillants se sont retranchés dans la forêt à l'ouest de Toyo où les FRDC et les UPDF mènent actuellement des opérations de ratissage. Les autorités militaires et administratives confirment l'attaque et promettent de s'exprimer bientôt. De son côté, les conseillers du gouverneur en charge des affaires humanitaires appellent les organisations spécialisées à venir en aide aux victimes. Sur place, toutes les activités socio-économiques sont paralysées. La population est en deuil, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Beni Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Situation similaire à Ituri où l'ONG Médecins Sans Frontières s'est dit consternée par la nouvelle vague d'attaques meurtrières survenues ces deux derniers mois dans la province. Dans un communiqué publié le 4 septembre dont Radio Okapi a reçu copie ce mardi 9 septembre, l'organisation humanitaire alerte sur la saturation des structures de santé qu'elle soutient, lesquelles reçoivent des dizaines de morts et des blessés. MSF appelle à un renforcement urgent de la protection des civils dans cette province. Martial Kizabiamongo.
D'après Médecins Sans Frontières, l'actuelle flambée des violences remonte à la fin de juin de cette année. Partie des Diangui dans les territoires d'Indjougou où 9 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tuées lors d'une attaque de la Côte d'Écho contre un site de déplacés. Cette violence n'est fait que s'amplifier. 4 jours après cette attaque de juin 2025, des habitants de Katsou étaient à leur tour pris pour cible, provoquant de nouveaux blessés et un déplacement de la population. Toujours selon MSF, plus de 40 personnes ont trouvé la mort dans une église à Komanda à 75 km de Bounia un mois après. Pour cette organisation humanitaire, ces violences interviennent dans un contexte d'accès aux soins extrêmement limité avec la majorité des victimes qui restent sans assistance médicale malgré des douleurs, conséquences physiques et psychologiques. Pour MSF, ce qui se passe à Ituri est tout simplement inacceptable. L'ONG appelle tous les belligérants à épargner les civils. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Sur le Kivu, en plus bref, le commandant adjoint de la 33e région militaire, le général Olivier Gassita, n'est plus à Uvira. Le commandant en charge des opérations et des renseignements a quitté cette ville du sud Kivu à l'aube de ce mardi. L'information est confirmée par des sources militaires qui précisent qu'il est parti aux alentours de 3h du matin. Des habitants contactés dans l'après-midi de ce mardi confirment une reprise progressive des activités dans la zone, notamment les transports en commun et l'ouverture de certaines boutiques. Nous sommes à notre deuxième reportage de la série sur l'obtention du passeport. 126 000, c'est le nombre de passeports bloqués dans les bases de données de l'ancienne société belge qui produisait ces documents de voyage. Une situation kafkaïne pour des milliers de demandeurs qui avaient déjà payé leur dû. Comment ce blocage est-il survenu? C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième reportage. Michel Kifinangoy.
C'est un chiffre qui glace les sang, 120 000 passeports. Ce sont des milliers de dossiers de passeports qui sont aujourd'hui inaccessibles. Ils sont restés dans la base des données de l'entreprise belge qui produisait auparavant les documents.
Oui, monsieur le journaliste, j'ai fait ma demande en 2024. Avec l'ancienne procédure, tout a été fait. Mais on me dit qu'il faut tout recommencer. Imaginez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait de l'argent que j'ai payé? C'est vraiment de l'escroquerie.
Ces dossiers bloqués concernent une grande partie de ceux qui ont fait la demande avant le changement de prestataire. Ils sont enrôlés, mais leurs passeports ne sont pas imprimés. Une situation qui pénalise fortement cette étudiante.
Mon visa pour le Canada, ma bourse, tout était prêt. J'ai payé cher le passeport pour avoir la chance d'aller étudier à l'étranger. Aujourd'hui, on me dit que mon dossier est bloqué. Je ne peux rien faire.
Mais pourquoi une telle chute de production? Alors que la société belge produisait des milliers de passeports, la nouvelle peine à en sortir quelques centaines. C'est la question que nous aborderons dans notre prochain reportage.
Parlons sport avant d'aller plus loin. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés hier mardi à Kinshasa devant les Lions de la Teranga du Sénégal 2-3. C'était dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après avoir mené au score avec 2 buts d'écart, les Congolais se sont fait rattraper et dépasser. Une défaite qui compromet leurs chances de qualification. Ainsi, les Congolais cèdent leur première place aux Sénégalais qui ont désormais 18 points contre 16 pour la RDC. Jean Ganduka Bongo.
La défaite des Léopards est pour beaucoup de spectateurs présents au stade de Martyr une pilule amère à avaler. La belle entame du match de la part des Léopards qui ont, en l'espace de 30 minutes, marqué 2 buts, ne présageait pas une fin si douloureuse pour les Congolais qui croyaient dur comme fer en leur victoire. C'était sans compter avec la ténacité des Sénégalais qui ont commencé par réduire les scores à quelques minutes de la mi-temps. À la reprise, ils ont mis les pieds sur l'accélérateur pendant que les Congolais subissaient leur fougue jusqu'à ce qu'ils ont encaissé le but égalisateur avant de recevoir un coup de massue avec le 3e but qui venait ainsi de sceller la victoire sénégalaise. Pleurs pour les uns et chagrin pour les autres, tel était donc l'atmosphère qui a prévalu après le match. Non content, certains ont tout bonnement cassé des dizaines de chaises qu'ils ont balancées à tout vent. La victoire sénégalaise cloue ainsi les espoirs des Congolais de s'engager sur le chemin de la phase finale de la Coupe du Monde sans problème. La RDC doit donc désormais compter sur un faux pas des Sénégalais lors des dés de leur prochaine sortie. La RDC doit absolument gagner les matchs restants si elle veut aller loin à jouer le barrage ou tout simplement dire au revoir à la prochaine Coupe du Monde de football.
Actualité internationale.
Ministre des Armées lors du précédent gouvernement, Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre par le président français Emmanuel Macron ce mardi 9 septembre 2025 dans la soirée. Cette annonce intervient après que François Bayrou a présenté sa démission au chef de l'État. Plusieurs têtes de cochons ont été découvertes mardi 9 septembre matin devant des mosquées de Paris et de la région parisienne. Pour les recteurs de la grande mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz, il s'agit d'une nouvelle et triste étape dans la montée de la haine anti-musulmane, car le porc est en effet considéré comme impur par l'islam.
L'invité.
En invité, nous recevons le président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui vient de clôturer une caravane humanitaire dans la région des Beni Lubero et Walikale au Nord Kivu. Rubens Mikindo aborde la situation sécuritaire et humanitaire dans la province qu'il qualifie de précaire et souligne que le processus de Washington et de Doha représente une voie prometteuse pour le rétablissement de la paix dans la région. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Rubens Mikindo, bonjour.
Bonjour.
Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire dans l'est du pays, en particulier au nord Kivu, et quels sont les principaux défis à relever en priorité pour améliorer la sécurité?
La situation sécuritaire au nord Kivu est jusque-là un tout petit peu précaire. J'ai palpé du doigt moi-même cette insécurité avec les forces de défense que nous avons dans cette partie, de la manière dont les choses s'organisent. Je peux vous dire avec la main au cœur que j'ai bon espoir que les choses peuvent aller, ou si vous voulez, ça va aller pour le mien. Nous avons eu à faire même une descente avec les gouverneurs pour aller palper du doigt dans la partie bénie ce qui se passe sur le plan de l'insécurité, mais je crois qu'on peut dire que nous sommes sur la bonne voie.
Les violences armées continuent de provoquer des déplacements massifs des populations au nord Kivu, au sud Kivu et à Ituri. Quelles réponses concrètes attendez-vous du gouvernement pour y remédier?
Ça me préoccupe au plus haut niveau, moi-même personnellement et toute la commission que je dirige au niveau de l'Assemblée nationale. C'est question aussi de faire un rapport non seulement au Parlement, mais aussi nous allons faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités afin que cette situation humanitaire puisse trouver des réponses par rapport aux désiderata de la population.
Vous avez été à Walikale, vous avez visité Beni. Qu'est-ce que vous avez constaté de vos propres yeux par rapport à la situation des déplacés?
C'est une situation désastreuse et c'est pourquoi là je voudrais m'adresser tout droit au gouvernement de comprendre qu'il y a des déplacés. Mais curieusement, je vois qu'il y a des ministres qui, au lieu de rester dans le bureau climatisé à Kinshasa, il serait souhaitable de venir palper des doigts. Je peux vous dire, le gouverneur de la province du Nord Kivu, on a fait une itinérance avec lui dans cette partie ici. On a été voir ce qui s'est passé à Ouicha, par exemple. Et moi, je salue les efforts du gouverneur de province qui quittait le chef-lieu de la province et s'est retrouvé dans un coin reculé comme Béni et voir comment ça s'organise. Je crois que ces gouverneurs, il est aussi question de les soutenir par rapport à la situation qu'il est en train de gérer ici en province du Nord Kivu. Il y a des efforts à fournir pour que, par exemple, le problème des infrastructures soit au-devant de la scène des préoccupations du gouvernement central. Parce que si nous avions des routes qui relient les quatre coins de la province, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. Mais, en tout cas, il faut saluer les efforts du gouverneur de province qui, au-delà des problèmes sécuritaires, on voit qu'il est en train de se battre pour remédier à certaines situations et même les développer, parce que nous avons été à l'aéroport de Mavivi, on voit ce qui est en train de se faire. Je lui ai même demandé ce qui s'est fait, par exemple, à Mavivi, que ça se fasse aussi à Walikale. Et il faut aussi demander au gouvernement au niveau national de soutenir, d'inscrire dans le projet du budget 2026 pour que de provinces sinistres comme le Nord Kivu et les Sud Kivu soient prises en compte.
Le gouvernement est engagé dans deux processus de paix. D'un côté, celui de Washington avec les Rwanda et de l'autre, celui de Doha avec l'AFC M23. Pensez-vous que ces initiatives offrent une véritable chance de mettre fin aux violences dans l'est de la RDC?
Le chef de l'État, c'est un homme de grand cœur. Il a accepté d'aller à Washington, d'aller à Doha. Je crois fermement que cette voie de Doha, cette voie de Washington, nous donne nous tous l'espoir que les choses vont aller pour le mieux pour recouvrer l'autorité de l'État.
Vous revenez également de votre circonscription à Walikale, une zone minière où l'insécurité et l'exploitation illicite des ressources sont étroitement liées à la pauvreté de la population. Quelles mesures seraient nécessaires pour améliorer la vie des populations locales?
Le gouvernement a fort à faire par rapport à ça. J'ai fait partie d'une commission de contrôle qui va se faire sur la société Alphamine et je crois que cette commission va arriver à trouver des solutions par rapport au déséquilibre qui existe dans les accords qui avaient été signés par le passé, mais aussi il faut mettre fin à l'activisme des groupes armés qui contrôlent certains carrés miniers. Les enfants de Walikale aujourd'hui demandent à ce que le minerai qui quitte Walikale puisse bénéficier aussi aux enfants de Walikale.
En tant que président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, comment comptez-vous renforcer les contrôles parlementaires sur l'action du gouvernement en fait d'assurer une plus grande efficacité dans la défense et la sécurité nationale?
La Commission défense et sécurité, comme ça s'est dit d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, elle est sensible et tout le monde va comprendre le travail que nous sommes en train de faire sur le résultat.
Rubens Mikindo, merci.
Fin de notre grande édition du journal du matin, coordonnée par Polly Mouzalia et mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix avec Christelle Fritimangwa.